Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si vous êtes musicien professionnel ou que vous avez l'oreille musicale, vous êtes capable de jouer des morceaux rien qu'en les écoutant, que vous êtes mélomane, la musique vous touche particulièrement mais vous ne jouez pas d'un instrument, ou encore que vous êtes amusique, c'est-à-dire malheureusement impossible pour vous de retenir une mélodie, vous chantez faux aux grandes dames de vos amis, cette émission est pour vous. Pourquoi certains d'entre nous sont-ils musiciens et d'autres pas ? Pourquoi certains savent-ils entendre la musique, comme des musiciens professionnels, alors qu'ils ne l'ont jamais apprise ni ne jouent d'un instrument ? Autant de questions auxquelles Bernard Le Chevalier répond dans son ouvrage « Le cerveau mélomane de Baudelaire », paru chez Odile Jacob en 2010. Il est avec nous pour nous présenter les grandes lignes de son ouvrage. Bernard Le Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur émérite de neurologie et membre de l'Académie nationale de médecine. Spécialisé en neuropsychologie, vous avez contribué à créer une unité INSERM consacrée à la neuropsychologie, notamment de la mémoire. Vous êtes également organiste, titulaire d'une église, celle de Saint-Pierre-de-Caen. Et après le livre « Le cerveau » de Mozart, publié en 2003 chez Odile Jacob, livre qui a eu un grand succès où vous explorez les mécanismes de la perception musicale, vous réitérez l'expérience avec « Le cerveau mélomane de Baudelaire » qui, lui, parle de l'écoute. Le cerveau mélomane de Baudelaire sur lequel porte cette émission. Avant de commencer sur des questions d'ordre pratique, Bernard Le Chevalier, expliquez-nous ce titre original, Le cerveau mélomane de Baudelaire. Racontez-nous dans quel contexte Charles Baudelaire tombe dans l'univers wagnérien et fait de lui un mélomane, lui qui ne pratique pas la musique.
Eh bien, il y a deux personnages, effectivement, dans ce livre. Et puis, il y a le troisième groupe de personnages qui sont les auditeurs. Alors, le premier personnage, c'est Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, je l'ai appelé mélomane, je lui ai donné ce qualificatif de mélomane, parce qu'il aimait beaucoup la musique, il allait au concert, et plus tard, vers 1840, il allait écouter des concerts consacrés à Beethoven ou à Weber, il aimait beaucoup les concerts classiques, mais il ne connaissait pas du tout la théorie musicale et il ne jouait pas d'instrument de musique. C'est pour ça que j'ai utilisé ce qualificatif de mélomane par opposition aux musiciens confirmés, musiciens qui ont appris la musique et qui pratiquent un instrument. Le second personnage, c'est Richard Wagner. Et entre deux, il y a eu la rencontre, la fameuse rencontre de 1861, un mois près de la découverte du centre du langage par Broca, 1861, qui s'appelle toujours le centre de Broca d'ailleurs. Et bien en même temps, il y avait la première de Tannhäuser à Paris, qui était donnée pour la première fois à Dresde en 1845. Et là, ça a été la révélation pour Charles Baudelaire, qui a été plongé, dit-il, dans une sorte d'état d'extase. Et j'avais proposé d'appeler d'ailleurs ce livre « L'extase de Baudelaire », ce qui aurait fait un titre un petit peu compliqué, puisque ça n'était pas spécialement musical. Voilà les deux personnages. Et puis le troisième, le groupe de personnages, sont les auditeurs qui écoutent de la musique classique. Et j'ai essayé, dans un abord un peu phénoménologique, si vous voulez, c'est un peu ça l'orientation générale du style, j'ai essayé de voir des faits, d'essayer comment ces faits pouvaient s'enchaîner et ce qu'on pouvait en conclure, ou tout au moins formuler des hypothèses sur l'écoute de la musique, qui est un problème de psychologie en soi, très intéressant, parce qu'actuellement, Dieu merci, la musique est quand même bien développée en France.
Une extase qui n'était pas partagée par tous à l'époque.
Non, on peut même dire que, comme vous le soulignez, cette extase était tellement personnalisée qu'elle n'en prenait que plus d'importance chez celui qui était touché. C'est-à-dire Charles Baudelaire ne s'est-il pas pris pour un initié, un touché par la grâce, celui qui est capable de communier à l'art et au génie de Richard Wagner. Et il décrit, là, pendant le spectacle de Tannhäuser, il décrit ses impressions colorées, ses impressions d'apesanteur, etc. Il faut dire qu'un an avant, Charles Baudelaire avait assisté au premier concert dirigé par Richard Wagner lui-même à la salle Ventadour, tout près de l'Opéra, celle qui existe toujours mais qui est devenue une banque, entre parenthèses. Et là, ce premier concert de Richard Wagner avait beaucoup touché Charles Baudelaire et donc il était déjà préparé lors de la première de Tannhäuser à cette admiration. Il entrait dans la salle Le Pelletier avec déjà une idée préconçue, alors que pour beaucoup c'était une idée préconçue dans l'autre sens, puisqu'il y a eu une cabale organisée vraiment sur le plan de l'organisation matérielle qui a fait une faillite, qui a transformé cette première de Tannhäuser en échec complet. Il n'y a eu que trois représentations.
Je vous propose, pour comprendre l'extase de Charles Baudelaire, d'écouter un extrait de l'opéra de Tannhäuser, La Bacchanale de Venusberg, extrait qui suit l'ouverture et est composé pour la version française. Écoutez un extrait de la Bacchanale du Venusberg tiré de Tannhäuser de Richard Wagner. Bernard Le Chevalier, avant de venir à l'écoute qu'on peut avoir de la musique, comment les compositeurs composent-ils leurs morceaux? Est-ce qu'ils ont toute une petite musique intérieure, un chant intérieur, comme vous l'indiquez dans votre ouvrage?
Oui, je suis encore sous l'effet de Wagner, je crois qu'on va partir de ça, justement. Eh bien, il faut remarquer, premièrement, que c'est admirable. Je suis content d'avoir, heureux d'avoir entendu ce magnifique morceau. Vous avez entendu tous les crescendos qui n'aboutissent pas, avec un crescendo monstrueux vers la fin, un deuxième thème qui apparaît. Et puis, vous avez entendu cette espèce d'allaitement, car il fallait donner l'impression que c'était le Venusberg. Finalement, on pourrait donner un autre nom à ça, mais bon, ça a dû choquer beaucoup. Et Wagner en aurait pu faire quelque chose de trivial. Il en a fait quelque chose d'absolument admirable, qui est éthéré. On a l'impression que c'est plutôt une recherche de quête mystique, que le Venusberg. Et vraiment, je trouve que ce morceau est admirable, d'autant plus admirable qu'il était composé en un temps record. Parce que Wagner n'avait pas prévu ce ballet, car c'est un ballet qui a été fait avec la collaboration de Petit Pas. Petit Pas, ce fameux chorégraphe tellement connu et au nom prédestiné, pourrait-on dire, par parenthèse. Alors il a fait ça très 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 vite, je crois qu'il a mis une semaine à faire cette bacchanale, qui est une réussite totale. On peut dire qu'on sent déjà du Stravinsky dans le morceau-là. Alors j'en viens comment les musiciens, bon ben ça c'est le génie, ça c'est des Mozart, des Wagner, des Beethoven, il n'y en a pas des quantités. Hein. Pour être capable d'écrire ça, une orchestration très très rutilante et magnifique, quoi. C'était un morceau admirable. Bon, alors en général, on dit qu'il y a deux façons de composer. Hein. Composer avec l'instrument, c'est pas la plus glorieuse. Il y en a même trois. c'est pas la plus glorieuse parce que on dit celui-ci, mais il composait avec l'instrument. C'est-à-dire qu'il y a des compositeurs très connus, par exemple Berlioz composait avec sa guitare. Hein. Il avait une guitare, c'est pratique. Alors ça, c'est une façon. Alors on compose avec l'instrument et puis après on note au fur et à mesure sur le piano, par exemple. Alors il faut dire que Wagner commençait par écrire parce qu'il écrit lui-même les poèmes. Moi, je peux pas me permettre de poser des jugements là-dessus parce que je connais pas la langue allemande. Il paraît que ça n'est pas quand même de la grande littérature, mais j'en ai quelques-uns. Il faisait le poème et après ça, il faisait la partie de piano. Il mettait tout au piano.
Il transposait dans le langage musical.
Voilà, dans le langage musical. Et ensuite, il faisait l'orchestration. Et ensuite, la mise en scène, parce qu'il faisait le texte, la musique, l'orchestration, les décors, la mise en scène, avec des notes sur la scène. C'était d'une précision extraordinaire. C'est pour ça qu'il était amené à créer Bayreuth, le théâtre de Bayreuth. Alors ça, la première catégorie, ce sont donc les compositeurs qui composent avec l'instrument. La deuxième catégorie, c'est composer avec papier-crayon. Papier-crayon, c'est la plus noble. Les compositeurs qui entendent, c'est vrai, quand on fait de la musique, on entend dans sa tête la musique.
Hein, ce champ intérieur que vous évoquez dans votre livre.
Alors, il y a d'autres méthodes. C'est l'improvisation. Il y a eu des morceaux improvisés. Mozart a beaucoup transformé des improvisations. Mais il faut avoir une excellente mémoire. Parce que l'improvisation, souvent, c'est fugace. Il y a de très grands interprètes qui improvisent admirablement et qui n'ont jamais composé une note. Et puis alors maintenant, j'ajoute un plus là, eh bien c'est la musique électronique. Alors là, on franchit une barrière. Je ne sais pas quelle est la difficulté de franchissement. En général, les musiciens qui commencent à composer d'une certaine façon ne se mettent pas à faire de la musique électronique d'un seul coup. Là, ça fait appel aux sciences, aux mathématiques, et c'est un monde tout à fait différent.
Venons-en à l'écoute. Si on aborde la partie neurologique, quelles sont les aires du cerveau qui sont activées lorsque l'on écoute et lorsque l'on joue de la musique? Est-ce que ce sont les mêmes aires qui sont activées?
Alors là, dans cette question, il faut d'abord commencer par dire qu'il y a des niveaux d'écoute, mais pas des niveaux psychologiques, des niveaux physiologiques. Et je pense qu'on n'attache pas assez d'importance à l'oreille interne. Un problème qui m'a toujours tracassé, j'ai questionné des très grands mathématiciens actuels sur la question, des physiciens, des acousticiens, et on peut dire que comment une œuvre comme celle que l'on vient d'entendre, là, de Wagner, ou bien une symphonie de Mahler, ou bien une symphonie de Beethoven, comment l'onde, les ondes, les complexes d'ondes, qui sont d'une complexité du très très tourmentée, parce que ce sont les additions de plusieurs ondes d'harmonique, comment tout cela, agissant sur une petite membrane de 2 mm de diamètre qu'est le tympan, va transformer la vibration de l'air, parce que s'il n'y avait pas d'air, il n'y aurait pas de musique. On nous fait entendre, soi-disant, de la musique du vide et tout ça, c'est du bluff, parce qu'il n'y a pas de musique dans le vide. La musique, c'est la vibration de l'air. Comment cette musique, cette vibration de l'air qui agit sur le tympan, peut donner lieu à une analyse extrêmement subtile de la part de l'oreille interne qui va transformer cette énergie acoustique en potentiel nerveux? La question n'est pas résolue. À chaque fois que j'écris quelque chose sur la musique, je redis toujours la même chose. Bon, mais c'est un problème très, très complexe. Alors ensuite de ça, ça c'est le premier niveau. Et ce niveau-là, c'est celui qui est le moins connu. C'est moins connu, paradoxalement, que l'action du cerveau. Alors deuxièmement, les influx nerveux qui gagnent par les nerfs acoustiques, et puis des relais qui gagnent le cerveau. Alors dans le cerveau, deuxième niveau, si vous êtes deuxième niveau, niveau cérébral, pour la première fois, un de mes élèves qui est maintenant un maître, qui est professeur de psycho, a publié dans la prestigieuse revue Brain un travail remarquable fait à l'Institut des sciences neurologiques de Caen, c'est-à-dire au Centre Cicéron, et puis en collaboration avec Queen's Square à Londres. C'est bien que les étudiants ont pris c'était les étudiants le sujet, les étudiants de l'université, ils ont pris le bateau, le ferry, non pas parce qu'il n'y avait pas d'avion, mais pour aller à Queen Square. Et donc, c'était fait en collaboration avec Queen Square. Et là, Hervé Platel, car c'était Hervé Platel dont il s'agit, a réussi, grâce à la caméra positon et à des travaux qui mettent en jeu les radioactivités, il a réussi à délimiter les aires du cerveau qui sont dévolues à la musique. Alors, contrairement au langage qui est localisé dans l'hémisphère gauche, sauf du langage poétique, et peut-être un peu dans l'hémisphère droit, mais on peut dire que chez le droitier, le langage est dans l'hémisphère gauche, l'air de Brocard, de Wernicke. Tandis que la musique est répartie un petit peu dans les deux hémisphères. C'est ce qui est très intéressant. Si bien que ce que je vous dis là, ça peut sembler une banalité, mais en fait, c'est lourd de conséquences. Ça veut dire que la musique est devenue, du point de vue non pas esthétique, artistique, historique et tout ce que vous voudrez, du point de vue scientifique, la musique a acquis un intérêt scientifique considérable parce qu'elle possède des aires modulées, modulaires, et que ces aires modulaires fonctionnent en même temps, synchrones. Donc c'est différent sur le lieu, mais c'est tout ça synchrone, comme s'il y avait un orchestre réellement physiquement dans notre propre cerveau. Et on connaît ça de façon un peu très schématique, ce que je vous dis, dans le lobe temporal droit. C'est la perception des mélodies, des timbres, de l'affectivité. Et d'ailleurs, le lobe temporal droit est très impliqué dans toute la vie émotionnelle, affective, les pulsions et tout ça. Il y a eu une chose abominable qui s'est passée, enfin j'insiste pas récemment, dont les journaux nous ont informés. Là-dessus, la chirurgie du lobe temporal droit, redoutable. Bon, et deuxièmement, du côté gauche, dans le lobe temporal gauche,
c'est le rythme.
Eh bien, c'est le rythme, comme est dans la même aire que l'aire de Broca, qu'est l'aire de l'expression du langage. Voyez-vous, c'est le rythme et c'est l'analyse des hauteurs, mais élémentaire. Si bien comme l'a dit Bergson, qui était fils de musicien et fils de professeur de musique, Henri Bergson a dit, mais la mélodie, c'est un tout. On l'aperçoit comme un tout, ça n'est pas des petits bouts d'intervalles collés. Ce qui a été confirmé maintenant, on le sait, Husserl a dit la même chose. Et puis, à côté de ça, à gauche, on perçoit les hauteurs élémentaires et les intervalles. Et tout ça fonctionne ensemble. Et puis, à gauche aussi, c'est la familiarité. La notion de familiarité, et je crois qu'on ferait la peinture, on étudierait la peinture, je crois que ce serait la même chose. Dire ça, c'est un Van Gogh, ça, c'est un Monet, ça, c'est un Delacroix. C'est notre lobe sémantique, c'est-à-dire nos connaissances qui sont situées dans l'hémisphère gauche. Voilà, ça c'est vraiment du béaba ce que je vous dis là. Mais c'est pour montrer le niveau. Alors en plus de ça, nous ne sommes pas que des robots, des machines. Eh bien, il y a l'affectivité. Alors l'affectivité, pourquoi est-ce que certains sont musiciens? On pourra en parler tout à l'heure. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que notre petite enfance, tout ce qu'on a entendu, ceux qui n'ont jamais entendu chanter dans leur enfance, ceux à qui les parents ne chantaient pas de chansons, tout ça, c'est un retentissement. Et je crois que le rôle des parents est fondamental, même avant la naissance.
Alors justement, dans votre livre, d'une manière générale, on dit que tout se joue avant 3 ans. Est-ce que c'est valable également pour l'apprentissage de la musique?
Alors,
pour pouvoir
l'histoire de tout
ressentir
se joue avant
la
3
musique
ans, ça c'est l'oreille absolue. Parce que les musiciens allemands, les neuropsychologues allemands ont fait un travail remarquable sur l'oreille absolue. Vous savez ce que c'est l'oreille absolue? C'est de savoir que le son, un son qu'on entend, n'importe quel son, un bruit, n'importe quoi, eh bien on dit tout de suite sa hauteur. On dit, avec le baroque actuellement, le diapason a baissé, on joue plus grave qu'autrefois. Donc les Allemands ont poussé les choses tellement loin que ça en est devenu hyper scientifique, c'est-à-dire que des gens qui ont l'oreille absolue, on leur demande quelle est la vibration, le nombre de vibrations du son. Est-ce que c'est 440? Le la, c'est 440. Alors les gens vraiment qui sont hyper doués pour l'oreille absolue, ils sont capables de dire, je ne sais pas combien près, mais enfin, c'est telle vibration. Montrant que c'est indépendant de la question de hauteur du diapason moderne, du diapason baroque et tout ça. Alors, ces auteurs allemands-là pensent que l'oreille absolue est presque de mise quand l'enfant commence à jouer d'un instrument avant 3 ans. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui commencent un instrument avant 3 ans. Alors, dans les orchestres, dans les grands orchestres symphoniques, on dit que ceux qui ont l'oreille absolue, ce sont généralement des cordes, des instruments à cordes, et c'est presque toujours des enfants qui ont commencé très tôt l'environnement musical. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils soutiennent, je répète ce que j'ai lu dans des très bons articles internationaux, nationalement connus. Ils soutiennent que l'oreille absolue n'est pas héréditaire et ils soutiennent aussi qu'il y a des anomalies morphologiques chez les enfants qui ont l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'ils ont un plenum temporal, c'est-à-dire la face supérieure du lobe temporal gauche, qui est encore plus asymétrique que chez un sujet normal. Parce qu'il faut dire que chez un sujet normal, l'hémisphère dominant, l'hémisphère du langage gauche, a déjà un plenum temporal qui est plus grand que le droit. Donc c'est pour ça qu'on dit l'hémisphère dominant. Mais chez les enfants qui ont l'oreille absolue, c'est significativement, statistiquement, si vous voulez, encore plus asymétrique. Donc le plenum temporal gauche est considérable.
Des facilités de naissance, alors. Une facilité de naissance.
Personne ne l'a jamais dit. Est-ce que parce que l'extérieur modifie le cerveau, c'est pas un caillou le cerveau, c'est tout ce qu'il y a de plastique, vous le savez. Par exemple, quand un aphasique qui a une grosse lésion gauche, et si on a une bonne rééducatrice et une bonne rééducation, au bout de 3 ans, on le fait reparler parce qu'il reparle avec son hémisphère droit. J'ai eu un malheureux patient qui a retrouvé comme ça le langage et puis il a fait un deuxième accident droit ce coup-ci et il est redevenu à zéro. Tout ce qui avait été gagné. La plasticité cérébrale, c'est une chose absolument remarquable.
Alors, restons sur la plasticité cérébrale. Jean Rossier, dans l'émission 40 ans de neurosciences, évoque justement la plasticité du cerveau, notamment des expériences qui ont été réalisées sur des basketteurs, sur des chauffeurs de taxi ou encore sur des jongleurs, où en pratiquant intensément une activité, les aires vont se développer physiquement. J'imagine que c'est la même chose dans le domaine de la musique.
Je connais Jean Rossier parce que je l'ai connu à l'ITSERM, je crois bien. Mais dans la musique, les violonistes, par exemple, ont une représentation du 5e doigt de la main gauche sur le cerveau, qui est beaucoup plus étendu que les gens qui pratiquent un autre instrument. Beaucoup plus étendu. Ça, c'est la plasticité cérébrale.
Vous avez parlé de l'oreille absolue. J'imagine que ça se présente pratiquement uniquement que sur les musiciens professionnels. J'imagine qu'il n'y a pas d'oreille absolue
pas
chez
du tout. Moi, je connais
des mélomanes
qui ne sont pas des musiciens professionnels. Moi, je n'ai pas l'oreille absolue, mais mon deuxième fils a l'oreille absolue. Il a fait du violoncelle. Ma fille a l'oreille absolue. Bon, et puis je connais des gens qui ont l'oreille absolue. Alors, moi, j'avais une théorie et je crois que je me suis trompé. Parce que je pensais, en faisant le cerveau de Mozart, que l'oreille absolue, c'était le résultat de l'éducation musicale. Et puis, j'ai parlé avec des pédagogues très sérieux, des jeunes enfants qui m'ont dit, mais mais vous savez, c'est plus compliqué que ça, parce que nous, on a des enfants qui ont l'oreille absolue, dont les parents ne sont pas du tout musiciens, pas du tout du tout musiciens. Et puis à côté de ça, il y a des enfants de parents musiciens qui n'ont pas l'oreille absolue. Alors pour la deuxième proposition, on peut dire que c'est peut-être en réaction contre les parents qui en ont assez d'entendre de la musique et qui ne veulent pas s'en occuper. Ça n'est pas uniquement lié, il faut être honnête scientifiquement, ça n'est pas lié, comme je le pensais personnellement, uniquement à l'apprentissage des premières années de la vie. Il semble que non. Alors actuellement, il y a même des études en IRM fonctionnel, alors pour, non pas pour l'oreille absolue, mais pour la musique, c'est-à-dire, on pourrait dire l'inverse.
On va y venir dans quelques instants à la musique. Je voulais rester dans le domaine professionnel avec ceux qui pratiquent la musique d'oreille. C'est-à-dire, ils n'ont pas de connaissances théoriques, ils ne savent pas forcément lire la musique, mais jouent d'oreille. Sont-ils nombreux et comment l'explique-t-on?
On l'explique parce qu'ils sont paresseux et ils ne veulent pas apprendre la musique.
Là aussi, est-ce qu'on parle de facilité?
Mais non, vous savez, apprendre la musique, c'est pas compliqué du tout. Moi, je pratique ces personnes qui ont une belle voix, qui chantent bien, qui animent des offices, puisque je suis organiste. Et quelquefois, il y a des pannes, parce qu'ils sont obligés d'apprendre, ça leur prend beaucoup de temps, ils vont enregistrer tout ça. Alors que s'ils apprenaient leurs notes, ce qui leur demanderait 2 heures par semaine, et ils seraient très bien. C'est que les circonstances ont fait qu'ils n'ont pas appris la musique. Mais ces personnes-là qui n'ont pas appris la musique sont tout à fait comme Baudelaire. Baudelaire n'a pas appris la musique parce qu'il avait peur du général au pic, son beau-père. Il n'a pas voulu lui demander de leçon de piano, il avait peur de se faire tancer. Mais il aurait très bien appris la musique.
Ensuite, il y a les mélomanes, donc Charles Baudelaire, vous
Charles
en parliez
Baudelaire,
à l'instant.
Oui.
Comment fait-on la différence entre les mélomanes et ceux qui ne le sont pas? Comment se déclare-t-on mélomane?
Eh bien, en général, les gens qui se déclarent mélomanes, c'est parce qu'ils aiment aller au concert, ils aiment écouter de la musique, ils aiment lire des ouvrages ou des articles qui concernent la musique, mais ils ne pratiquent pas. Les mélomanes sont des personnes qui aiment la musique, qui ont souvent une très bonne oreille, mais qui n'ont pas, du fait de circonstances diverses, ils n'ont pas appris la musique et ils n'ont pas fait d'un instrument.
Mais tout le monde vous dira qu'il aime la musique.
Non, non, madame, ne croyez pas ça. Il y a des gens qui disent la musique. J'ai un très bon ami avec qui j'étais interne à la Salpêtrière, un médecin qui est un très bon médecin. Il me dit la musique, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne reconnais pas qu'un son est musical. Et quand j'entends une œuvre de musique, c'est comme si j'entendais des voitures passer sur le boulevard, parce que ça, pour moi, je ne vois pas la différence.
Alors, on est dans le cadre d'une pathologie?
Je ne peux pas dire que c'est une pathologie, mais c'est une particularité. Le mot pathologie, il serait peut-être un peu méprisant.
Vous parliez d'aphasie. Est-ce qu'on se rapproche de l'aphasie, mais pour la musique?
L'aphasie,
dans ce cadre-là.
L'aphasie congénitale, ça existe peut-être, mais enfin, c'est pas fréquent, c'est rarissime. Tandis que là, ils ont toujours été comme ça, ces gens-là.
Vous parlez de la musique. Est-ce que là, on est dans le cadre de la musique? Une personne qui, justement,
oui.
Pour qui la musique ne signifie
pas
rien de particulier.
Oui, j'en ai vu plusieurs cas. Oui, oui. Alors actuellement, vous voudriez qu'on parle de la musique. Eh bien, les gens qui sont en musique, ils sont même assez gênés parce que quand il y a des discussions, ils ne disent rien. Et puis quelquefois, quand ils sont des bons amis, ils disent « Écoute, très franchement, pour moi, ça n'a aucune signification. » Malgré ma bonne volonté, souvent leur entourage a essayé de leur faire entendre de la musique. Ça ne donne rien, ça ne les intéresse pas. Alors donc, le mot « amusique » est actuellement remplacé par celui de « surdité tonale ». C'est bien préférable. C'est bien préférable parce que c'est lourd de conséquences de donner ce mot-là. Ça veut dire qu'on peut avoir une surdité tonale, c'est-à-dire pas reconnaître que c'est de la musique, mais aimer quand même la musique. C'est-à-dire que j'ai eu une patiente, moi, du fait de lésions acquises dans les 2 lobes temporaux, une malade qui avait 2 abcès du cerveau. C'est comme ça que nos études de mon équipe ont commencé sur la musique en 1985. J'ai eu à soigner une femme jeune qui venait d'accoucher et qui a eu 2 abcès du cerveau, un de chaque côté, après l'accouchement. Infection cérébrale très gravissime dont elle a survécu. Eh bien, cette femme-là, elle s'était abîmée les 2 lobes temporaux. Elle disait qu'elle ne pouvait pas distinguer la voix de son fils, la musique qu'elle entendait et les bruits des pas dans le couloir. C'était un magma sonore, mais dont elle ne pouvait pas identifier, si vous voulez. Et ce qui est très étonnant, c'est que le passe-temps favori de cette femme dans l'hôpital, là où elle était hospitalisée, c'était d'écouter des disques. Alors vous voyez, il y a plus d'un mystère, quand même, assez souvent mystérieux. Hein.
Et comment classer ceux qui, désespérément, essaient de prendre des cours de chant et chantent faux?
C'est la surdité tonale, mais je crois que là, l'expression de la voix, l'expression du chant, d'abord ça peut se rééduquer. Je connais une orthophoniste dans Paris, là, qui est spécialiste, là, qui
s'occupe des chants. On peut apprendre à chanter correctement.
On peut apprendre à chanter juste.
Mais pourquoi chante-t-on faux? Est-ce que c'est un mauvais feedback, comme vous le dites dans votre livre?
Je crois que, un, il y a le feedback, et puis deuxièmement, moi je pense que ça, mais il ne faut pas le dire, parce que ce n'est pas gentil. Il y a des gens qui ont une sorte d'apraxie de la voix. C'est-à-dire que les cordes vocales ne réalisent pas les mouvements qu'elles devraient réaliser, n'en font pas. La motricité des cordes vocales ne correspond pas à l'idée de ce qu'elles devraient faire. Voyez-vous, ça s'appelle une apraxie, ça. Comme quand on fait l'apraxie des gestes, des gens qui veulent faire un geste et qui ne réussissent pas à faire le geste sans avoir de paralysie ni de troubles sensitifs, de rien. Mais ils peuvent pas faire même des gestes symboliques.
Et cela représenterait 4% de la population?
pas du fait d'une apraxie de la voix. Les amusiques représenteraient, selon les statistiques, 4% de la population. Appelons ça la surdité tonale. C'est la seule statistique importante que je connaisse. Elle a bien plus de 10 ans quand même, il me semble bien. Il faudrait refaire les choses.
Donc les amusiques ne sont pas condamnés à rester de la musique.
Non, et surtout ça, surtout, il ne faut surtout pas leur mettre une étiquette. Parce qu'il y a des gens amusiques qui ont beaucoup de plaisir à entendre des disques et qui perçoivent des émotions. Les amusiques peuvent avoir des émotions esthétiques et ils se font une certaine idée de la musique. Parce que c'est ça une difficulté psychologique aussi, c'est qu'est-ce qui retient, que retient-on quand le concert est fini ? Que retient-on ? Actuellement, il y a le disque, alors évidemment. Mais vous vous rendez compte, quand Baudelaire faisait des critiques musicales, il fallait qu'il se mette sur la partition auquel il n'entendait rien. C'est extraordinaire d'avoir écrit tout ce qu'il a écrit par la simple mémoire musicale.
Alors pour terminer cette émission, de la même manière qu'on peut apprendre à chanter, pour ceux qui ont une surdité tonale...
Et je trouve qu'en France, on n'apprend pas suffisamment à chanter par rapport à l'Angleterre.
Alors de la même manière qu'on peut apprendre à chanter, est-ce que l'on peut apprendre à écouter ?
Oui, c'est plus facile d'apprendre à écouter que d'apprendre à chanter. Eh bien, c'est la tension, nous avons un dispositif. On parle toujours, certaines personnes disent « ma mémoire diminue ». Ils se croient tout de suite menacés par la maladie qui commence par un A, comme vous connaissez bien. En fait, c'est l'attention qui est souvent. Avec l'âge, l'attention se relâche. On a tendance à ne pas pouvoir rester en silence. Mais le silence, c'est un bien extraordinaire. C'est un don du ciel. Mais malheureusement, comment trouver le silence ? Il faudrait des disques de silence. Et pendant la musique, il faut faire silence. Si on va dans des réceptions, si on s'invite entre amis, on passe un morceau, tout d'un coup, ça commence à changer, on ne peut plus écouter. Il faut obtenir d'écouter la musique en silence.
Eh bien, c'est sur ce dernier mot que nous allons...
Sur le mot silence.
C'est sur ce mot silence que nous allons nous quitter.
C'est une sagesse.
Merci Bernard Le Chevalier. Je redonne le titre de votre ouvrage, Le cerveau mélomane de Baudelaire, où vous réalisez toute une étude sur l'écoute de Baudelaire au regard de toutes ces informations que nous avons délivrées au cours de cette émission. Livre paru chez Odile Jacob en janvier 2010. Merci Bernard Le Chevalier. J'imagine que vous repartez pour faire de l'orgue dans l'église où vous officiez.
Merci. Oui, je vais partir sur les bords de la mer pour voir comment elle est. Merci à vous également.
Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.